monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Dans l'article que nous allons vous lire, la situation est observée en France. Cependant, pas besoin d'être grand clair pour observer le même phénomène un peu partout en Europe, voire certainement plus loin dans le monde. Le phénomène des grandes villes se généralise effectivement. Technocrates à outrance, connectés et financiarisés, orientés de plus en plus par une nouvelle bourgeoisie jeune, écologiste et branchée, les grandes villes tentent désormais de capter l'essentiel des richesses nationales et internationales en collectionnant labels de certification et concentration bureaucratique de la nouvelle industrie financière numérisée. Cette sorte de renouveau du tertiaire, essentiellement déconnecté des réalités des autres couches populaires de la nation, prend discrètement les rênes du pouvoir tout en affichant une solidarité de façade, délaissant ainsi toute une partie de l'activité nationale. Et les villes moyennes, sommées d'égaler les performances économiques des mégalopoles, sans toutefois disposer des mêmes moyens, sont ainsi habilement discréditées et déclassées. Ce qui justifie d'autant les baisses budgétaires et l'appauvrissement des services publics, et corrélativement, une paupérisation accentuée de couches sociales déjà largement affectées par une économie locale en désagrégation. Dans d'autres circonstances, et pour les mêmes raisons issues du modèle économique dominant, à l'instar des entreprises et de leurs exigences économiques de rentabilité, les villes moyennes peuvent être sommées de fusionner. Ceci pour des raisons de retour sur investissement. Changeant ainsi d'échelle politique et économique, ces villes moyennes artificiellement grossies entreront à leur tour, bon gré mal gré, dans la centrifugeuse du capitalisme urbain, laissant à leur tour les plus déshérités sur le bord de la chaussée. Ce qui entraînera la conséquence de services sociaux débordés et en manque cruel de moyens et qui se voient ainsi accusés d'incompétence, justifiant ainsi leur rachat par des entreprises privées peu soucieuses d'améliorer le sort de ces collectivités démunies, pour leur préférer l'augmentation des dividendes distribués aux actionnaires. Ainsi s'enclenche un retour à un Moyen-Âge féodal, jamais véritablement quitté, par la force dominatrice d'un nouveau clergé, peu soucieux de morale, chrétienne ou non, mais dont la nouvelle église du profit privé ne fait pas moins de dégâts que la précédente. Bien au contraire. Car ce nouveau clergé, écologiste et branché, allié à une nouvelle aristocratie parvenue issue des années 70 et sans aucune scrupule, constitue désormais une force de pénétration dans le pouvoir politique et où les indéboulonnables aristocrates des générations précédentes ont été remplacés par une chaîne sans fin de personnages politiques et économiques aux intérêts communs. Et ceci se relaye maintenant de façon ininterrompue, donnant à d'apparentes alternatives partisanes le don de faire croire au changement, pendant que de toute leur puissance, ils s'acharnent à maintenir leurs privilèges de classe. Et ce fléau constitue désormais une caisse de résonance suffisante pour allier de nouvelles classes opportunistes allant de l'environnement, peu social, à une technologie envahissante, peu environnementale, en passant par une économie friande de gaspillage en fabrication de plus-value, pour investisseurs et autres mercenaires de la finance guerrière. Vous pouvez prendre connaissance de certains aspects évoqués dans cette introduction dans leurs manifestations concrètes, dans l'article intitulé « La France abandonne ses villes moyennes ». La ville de Montluçon en est l'objet, dans cette enquête de Jean-Michel Dumais, parue dans Le Monde diplomatique de mai 2018.
Cet article est lu par Raphaël Desplombs.
Délaissées au profit des métropoles, les villes moyennes comptent leurs plaies. Isolement, faibles ressources, exil des jeunes et des diplômés, chômage, pauvreté. Pour leurs élus, l'égalité des territoires prévue par la Constitution n'est plus qu'un souvenir, comme à Montluçon, dans l'Allier, où le combat pour une desserte ferroviaire décente en conditionne beaucoup d'autres. pour se rendre en train à Lyon, sa nouvelle capitale régionale située à 183 km à vol d'oiseau, un habitant de Montluçon, première commune de l'Allier, doit compter au minimum 3h30 avec un changement impératif, voire 4 à 5 heures selon les autres options proposées. C'est-à-dire davantage de temps qu'un Lillois qui réside 3 fois plus loin. On est près de tout et en même temps, on est loin de tout, synthétise M. Daniel Coffin, l'un des animateurs du comité de défense du rail local, Coderail. Ce cheminot retraité se souvient d'une époque bénie où l'on pouvait presque tout faire en train, en étoile autour de Montluçon. Au cœur du pays, la ville était un carrefour ferroviaire. Ainsi en avait décidé Napoléon III, accueilli en grande pompe dans les usines de la cité en 1864, sous un arc de triomphe de rails et d'essieux de wagons. Un siècle et demi plus tard, ce 28 avril, en marge des grèves de cheminots, la population était à nouveau appelée par les élus locaux à marcher pour le rail. Mais cette fois, il s'agissait d'empêcher sa disparition. Depuis quelques années, sur la base d'un raisonnement comptable, les rapports successifs remis à l'exécutif, dont celui de l'ancien président-directeur général d'Air France, M. Jean-Cyril Spinetta, préconisent des mesures aboutissant à la suppression des petites lignes peu fréquentées, comme celles qui mènent ici, à Paris, via Bourges et Virzon. Sans attendre, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a assuré que le gouvernement n'emprunterait pas cette voie. Mais le président de la République, M. Emmanuel Macron, a aussi lâché sur TF1 le 12 avril qu'avec un service public ferroviaire rénové, seraient maintenues toutes celles qui font sens, ce qui suppose que certaines ne le seront pas. Dans les années 1980, il y avait de 6 à 8 liaisons quotidiennes directes entre Montluçon et Paris. Il n'y en a plus que 2. La ligne de Moulins, se souvient M. Coffin, était déjà fermée depuis une dizaine d'années, mais celle d'Ussel, qui menait vers le sud, était encore en activité. Elle a fermé il y a 10 ans. Entre l'Est et l'Ouest, Royan et Genève, ou Bordeaux et Lyon, on comptait 2 allers-retours le jour et 2 la nuit. Il y a 4 ans, cette liaison directe a été abandonnée à son tour. Jusqu'à ce que, par la grâce de la région Nouvelle-Aquitaine, son tronçon depuis Bordeaux soit rouvert en décembre dernier. Comme quoi, rien n'est irréversible. Pis, note le retraité et avec lui ceux qui ont de la mémoire, dans le bocage bourbonnais, la ville s'est sensiblement éloignée de Paris, à 281 km à vol d'oiseau. En 1988, dit-il, il fallait 2h et 59 minutes pour rejoindre la capitale, et même 6 minutes de moins, 5 ans plus tard. Il faut maintenant, au mieux, une demi-heure de plus. Et encore, moyennant un certain effort, le TER, qui mène à l'intercité en correspondance à Virzon, part à 5h36 le matin. À défaut, une heure plus tard, un autocar SNCF assure la même correspondance pour un trajet total de 4 heures. Le direct de 8h11, lui, ne fait pas mieux. Il faut changer de motrice, diesel pour électrique, à Bourges, où l'on fait un crochet. 20 minutes d'arrêt. Évidemment qu'un Montluçon-Paris soit parfois aussi long qu'un Paris-New York, ça joue sur le moral, lance M. Frédéric Rodzinek, patron d'une jeune entreprise performante dans le secteur des biotechnologies. Allez expliquer à des clients canadiens, japonais ou américains qu'ils vont faire le raid gauloise avant d'arriver à destination. Cela peut prendre une journée d'aller les chercher. Livré au règne automobile. Avec une telle offre ferroviaire, comment s'étonner que le nombre de voyageurs décline ? Les grandes villes n'ont cessé de se rapprocher entre elles, constate amer M. Coffin. Nous nous sommes éloignés. On cause, d'une part, le report aux calendes du projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, POCL, destiné à désengorger l'actuelle ligne Paris-Lyon et sur laquelle tout le monde ici s'était excité. Et surtout, le défaut d'investissement sur le tronçon du Cher ces 40 dernières années. Une voie unique, non électrifiée, où la vitesse est par endroits fortement limitée. Son ballast est fragile, ses attaches rails et sa signalisation à surveiller. Être au cœur du pays pour finir au centre de nulle part. Notre avantage est devenu notre handicap, analyse M. Frédéric Laporte, maire, Les Républicains LR, de Montluçon. Avec M. Daniel Duglery, président, LR également, de la communauté d'agglomération Montluçon Communauté, il demande le maintien de la ligne et son électrification. Fermer le tronçon vers Bourges, ils sont cinglés, ils tuent les villes moyennes, alors qu'il faut rendre la vie à ces endroits-là, analyse Madame Carole Thibault, directrice du Centre dramatique national CDN des Ilets, qui s'y emploie sur le plan culturel. Qu'on ait besoin, ou non, de prendre le train pour Paris, le sentiment ici est largement partagé. L'éventuelle fermeture, après l'interruption de la liaison vers Lyon, signifie une rupture réelle, mais aussi symbolique. Certes, objecteront les technocrates, la ville est bien dotée en liaison routière et autoroutière. Mais justement, la voici abandonnée au règne automobile, à contre-courant des métropoles, qui cherchent à s'en émanciper à l'heure de la nécessaire transition énergétique. Dans l'agglomération montluçonnaise, sans voiture, point de salut. On use une énergie folle, témoigne M. Jean-Claude Perrault, président du groupe Métis, spécialisé en automatisme, mécatronique et robotique, et vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI. J'ai fait le calcul, 70 000 km avec mon véhicule l'an passé. En temps, c'est 3 mois de travail, c'est monstrueux, et en plus dangereux. Avec la hausse des péages et la limitation de vitesse à 80 km à l'heure, qui accroît mathématiquement de 12,5% les temps de parcours sur les départementales, on ajouterait les nouvelles règles en matière de contrôle technique plus strictes pour les vieux véhicules, c'est un peu la double ou triple peine, observe Damien Tardieu, journaliste qui, dans ses entretiens à la radio associative RJFM, prend chaque jour le pouls de la société locale. Les élus finissent par y voir une rupture dans l'égalité de traitement entre les territoires que la Constitution est censée garantir. Ironie des temps, c'est à Montluçon que fut conçue la Bourbonnaise, l'une des mères des locomotives en France, surnommée la bonne à tout faire du réseau. Ici que fut remisée la dernière motrice à vapeur dans ce qui fut l'un des dépôts nationaux les plus importants. Ici que surgirent des laminoirs locaux, des kilomètres de rails qui équipèrent le pays, ainsi que du matériel d'armement. Ingratitude des temps. À Montluçon, la patrie n'est plus reconnaissante. Au XIXe siècle, sur les bords du Cher, levée autour du château des Ducs de Bourbon, la petite ville médiévale s'était transformée en une cité industrielle au développement foudroyant. De 5000 habitants, en 1830, sa population crut à presque 60 000 dans les années 1960. Profitant du minerai de fer du Berry, du charbon voisin de Commentry, des usines métallurgiques, des hauts fourneaux, des forges y étaient d'abord apparus. Puis des verreries, des fours à chaux qui justifièrent l'essor du rail et firent de la rive gauche de la rivière une ruche ouvrière. La ville gozait. Ses productions évoluèrent quand le charbon vint à manquer et que le fer, l'orin, s'avéra plus avantageux. Dans l'entre-deux-guerres, Dunlop, caoutchouc, et la Sagem, mécanique et optique de précision, prirent la relève. Mais la ville, par la suite, ne put échapper au triptyque désindustrialisation, automatisation, délocalisation. À la disparition définitive de la sidérurgie en 1964, le conseil municipal socialiste dénonça une décision guidée par l'unique souci d'un accroissement des profits dans le cadre d'une politique de concentration capitaliste favorisée par le gouvernement gaulliste. En 1984, la gauche au pouvoir, interventionniste mais impuissante, reçut une gifle lors du rachat de Dunlop par le japonais Sumitomo Rubber Industries. Sur 2783 emplois, il n'en resta que 1200. Il y en avait plus de 5000 en 1945. En 2004, l'américain Goodyear absorba le Nippon quand il n'y en eut plus que 900. Aujourd'hui, difficile de trouver une trace de cette gloire industrielle passée, excepté aux Îlets. Le centre dramatique a été installé dans les locaux d'anciennes forges. Depuis longtemps, le port au bout du canal de Berry, la marina des prolos, a été comblé. Les imposantes usines Saint-Jacques ont été rasées, cédant la place à un espace commercial géant où s'entassent enseignes franchisées et parkings bondés. L'hypermarché Carrefour est plus loin. Deux Leclerc, un Auchan, deux Intermarché sont les nouveaux poumons urbains qui assèchent le petit commerce. Ces trois dernières années, l'agglomération a perdu un quart de ses boulangers. Seule une cheminée, celle de l'usine des Fercreux, ancienne fabrique de tubes puis de moteurs innovants, témoigne d'un temps où, par dizaines, des colonnes crachaient des fumées noires virant au rouge au moment des coulées. Au nord, dans une zone industrielle distendue, Safran, né de la fusion Sagem-Snecma, est le principal employeur, 1200 salariés. Des drones y sont développés pour l'armée. Tapi, dans son interminable enceinte de murs blancs, Dunlop Goodyear, aujourd'hui 650 emplois, dont 90 font l'objet d'un nouveau plan de suppression, a resserré son activité sur la production de gommes pneumatiques et de pneus moto. Mais les livres comptant le faste industriel ne sont même plus réédités. Par chance, on les débusque, chez un bouquiniste du vieux quartier Saint-Pierre. Reste, indicible, ce que les anciens de Montlu appelleraient le veson, un spleen local, le sentiment d'abandon qu'induit la question ferroviaire n'y est pas étranger. Les gens se replient sur eux-mêmes, comme s'ils avaient l'impression qu'ils n'existent pas, observe Madame Thibault, qui est née à Longueville, une ville sœur post-industrielle. En même temps, il y a chez eux comme quelque chose qui résiste en silence et en raclant. On disait, dans les années 60, que nous serions 100 000 en l'an 2000, se souvient M. Duglery. On a donc beaucoup construit. Aujourd'hui, la ville a chuté à 38 000 habitants, tandis que l'agglomération, 21 communes, s'est stabilisée à 65 000 du fait des poussées démographiques dans les communes périurbaines à Domera, Prémila, Saint-Victor ou Quinsaine. L'habitat du centre fait moins recette que le bâti neuf de la nouvelle ruralité en périphérie. Si Montluçon dispose d'un institut universitaire de technologie, d'une école de management et d'une école d'infirmières, beaucoup de jeunes n'y restent pas. Après le lycée, ils partent obtenir un diplôme d'études supérieures à Clermont-Ferrand, Lyon ou Paris. Parfois, certains reviennent en couple, avec enfants, ou alors, plus tard, retraités. Les cités, elles, sont aujourd'hui bien vides. Détruites ou rénovées, comme à Fontbouillant ou dans le quartier de Bien-Nassy, toutes deux classées politiques de la ville. Fin 2016, à Bien-Nassy, on comptait 250 logements vides sur 700 disponibles. Au rez-de-chaussée, les rideaux de fer occultent les anciennes antennes de la caisse d'allocation familiale, de la mission locale, de la mairie, du commissariat. En remplacement, les habitants ont obtenu une maison des services. Ils se demandent à quoi cela sert d'aller voter, tellement ils ont l'impression de ne pas être écoutés, dit Madame Denise Charbonnier, présidente d'une association de quartier. Lors de la dernière élection présidentielle, dans cet ancien fief du Parti communiste conquis par la droite en 2001, l'abstention, les votes blancs ou nuls, ont été plus forts que dans la France entière. 34% des inscrits au premier tour contre 24% dans la France entière, près de 44% au second tour contre 34% dans la France entière. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, a fait jeu égal, 24%, avec monsieur Emmanuel Macron, En Marche, loin devant monsieur François Fillon, LR, et madame Marine Le Pen, Front National, tous deux à 18%. Selon une note du Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, une trentaine de villes moyennes en France, dont Montluçon, sont particulièrement fragiles parce qu'elles concentrent plusieurs des difficultés observées parmi les 203 villes de taille et rôle semblables répertoriées, principalement des villes de 20 000 à 100 000 habitants. On compte dans ces maillons fondamentaux de l'armature urbaine française, selon le CGET, une spécialisation industrielle et administrative, une population plus âgée que dans les métropoles, une plus faible proportion de cadres et de diplômés de l'enseignement supérieur, des jeunes moins bien insérés. Et bien sûr, un chômage plus sensible à la crise de 2008 et un fort taux de pauvreté. La métropolisation, ça devient urticant. En 2014, à Montluçon, le revenu médian des ménages, pour beaucoup des familles d'employés, d'ouvriers et de retraités, était de 12% inférieur à la moyenne nationale, de 20% à celui de Lyon, de 32% à celui de Paris. Le taux de chômage, 11,8%, était plus haut que dans l'ensemble de la France, 9,6%, et bien plus que dans l'ensemble de la région, 8,6%. Le taux de pauvreté relative, dont le seuil était alors fixé à 1008 euros mensuels pour une personne seule, était plus élevé de 52% que le chiffre national. Un Montluçonnais sur 5 est concerné. On en voit la réalité les mardis et les samedis, dès 6h30, rue de la Gaîté, quand près du Secours populaire français commence la ronde des familles, dans le reste à vivre quotidien, hors loyer, électricité, chauffage, téléphone et assurance, tourne en moyenne à 3,35 euros par personne. En 2017, 1200 personnes ont été aidées par une soixantaine de bénévoles dans cette seule structure, avec les surplus alimentaires collectés auprès des grandes surfaces. On le voit aussi chaque midi, dans la chaleureuse Maison de la Solidarité, gérée par le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, MNCP, où une poignée de repas sont servis. Mais son activité est menacée. La cuisinière de l'association vient d'apprendre que son contrat aidé ne serait pas renouvelé, conséquence des restrictions décidées par le gouvernement. On parle ici d'équations délicates. Comment faire quand on est informaticien sans emploi et que l'on se voit proposer un contrat court à Issoire ou à Clermont-Ferrand? Où se loger? Comment se déplacer? À Montluçon, près de la moitié des demandeurs d'emploi sont en chômage de longue durée. Au dessert tombe cette appréciation. Tant qu'ils ne sont pas personnellement dans la merde, ils ne comprennent pas. À la cité administrative, qui regroupe les bureaux de la municipalité et de la communauté d'agglomération, M. Jean-Louis Muller, directeur des services des deux structures, estime que la France présente cette particularité d'avoir un État qui connaît très mal les villes moyennes et qui serre inconsidérément les cordons de la bourse en matière de dotation. Cela confine à l'insupportable pour des villes comme nous, dit-il, d'autant qu'elles portent toutes les charges de la centralité au niveau du bassin de vie et d'emploi. Depuis, les associations de collectivités locales ont dénoncé les pactes financiers proposés par le gouvernement actuel, qui visent à limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Échaudés par la question ferroviaire, messieurs Duglery et Laporte font le constat d'un aménagement du territoire moribond et d'une décentralisation meurtrière quand elle n'est pas accompagnée de moyens. Ils exposent le récent découpage territorial imposé par Paris, qui les place dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 15 km de la Nouvelle-Aquitaine, alors que la ville est tournée autant vers Bourges et Virzon que vers Clermont-Ferrand. Il suffit que deux présidents de région ne se parlent pas et rien ne bouge, regrette M. Duglery, par ailleurs conseiller régional. Pour ce rail, ce serait flagrant. La Nouvelle-Aquitaine a rouvert la ligne Bordeaux-Montluçon, qu'Auvergne-Rhône-Alpes, hostile à la régionalisation des lignes, ne veut pas étendre jusqu'à Lyon. La région Centre-Val-de-Loire veut bien participer, sur la partie chère, à la restauration du tronçon Bourges-Montluçon-Vétuste. Mais Auvergne-Rhône-Alpes, dont le président, M. Laurent Wauquiez, est pourtant du même bord politique que M. Duglery, n'est pas chaude pour le faire sur la partie alliée si éloignée de Lyon. Il faut reprendre aujourd'hui cette idée d'aménagement du territoire, conclut M. Duglery. La métropolisation, ça devient urticant. La crainte d'une fermeture du tribunal. D'autant que l'agglomération a quelques atouts à faire valoir en matière de conditions et de cadre de vie. Ici, on est toujours à moins de 10 minutes de son travail, entend-on en boucle. D'immobilier, ici, avec un SMIC, on peut devenir propriétaire. D'équipements culturels et sportifs, ici, on a un centre dramatique national, un théâtre municipal, un conservatoire de musique, l'équivalent d'un zénith, pouvant accueillir plus de 4000 personnes, une scène de musiques actuelles avec deux salles de concert, un musée des musiques populaires, un stade, un centre aqualudique. Un multiplex privé se fait attendre. Les infrastructures, c'est bien, mais ce n'est pas cela qui amène du monde. Coupe M. Bernard Pozzoli, conseiller départemental PS et maire de Prémila. Joli bourg de 2500 âmes, où des ménages plutôt aisés se pressent pour faire construire. Le ferroviaire, c'est primordial, estime l'édile, qui plaide lui aussi pour remettre Montluçon à moins de 3 heures de Paris, et rouvrir d'urgence la liaison vers Lyon. C'est une catastrophe, l'État a tout sacrifié. Devant l'accumulation des accusations, on pousse la porte de la sous-préfecture. Gêne du réceptionniste. Le sous-préfet a été muté il y a 2 mois, son successeur ne sera là que dans 1 mois. Et monsieur le secrétaire général, qui assurait l'intérim, vient de quitter lui aussi ses fonctions. Le désenclavement ferroviaire ne conditionne pas seulement la capacité d'attraction économique. Vous trouverez peut-être un salarié, mais vous aurez du mal à faire venir son conjoint. Par ricochet, il a aussi une incidence sur la qualité des missions de service public. À commencer par la santé, deuxième gros souci des Montluçonnais. Madame Elisabeth Ranou, médecin généraliste à Dessertines, dans le nord de l'agglomération, décrit un système libéral à bout de souffle. Sur l'agglomération, entre 5 000 et 6 000 personnes seraient 100 médecins référents et opteraient pour les urgences de l'hôpital en cas de besoin. En 2016, dans le secteur, nous étions 8. Dans 2 ans, je serai à la retraite, ils ne seront plus que 2. L'idée d'une maison de santé pluridisciplinaire a fait son chemin. Encore faut-il pouvoir attirer des médecins dans la vallée du Haut-Cher. Pour le quartier de Bien-Assy, les élus peinent déjà à recruter. Ils sont allés jusqu'en Roumanie les chercher. En vain. Redoutant un effet peau de chagrin, la justice locale n'est pas en reste. De grèves perlées, en journées mortes, elle veille sur la carte judiciaire comme les élus sur le réseau ferroviaire. Avocats, personnel et magistrats redoutent la fermeture du tribunal de grande instance, pourtant en rénovation. Ou plus insidieux, une réforme qui le viderait de sa substance en le spécialisant dans certains litiges. On nous dit que la modernité, c'est le numérique, confie maître Anne Amédusap, la bâtonnière. Mais cela ne remplacera pas la présence du juge et l'effet qu'elle produit. Elle rappelle la fragilité de la population. Le risque est que les gens finissent par renoncer à la justice, comme ils commencent à renoncer aux soins. Cela mènerait à une réactivation des conflits. On alimente un schisme entre les territoires, estime M. Jean-Nathanel Foulquier, directeur de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de Montluçon, qui dans sa zone voit fondre la commande publique en matière de formation. D'un côté, les secteurs urbains à gros flux de population, où il est aisé de regrouper des stagiaires. De l'autre, les territoires ruraux, moins denses, où la mission tient du travail d'orfèvre. Les sites de Moulins et de Vichy ont déjà été fermés. Pourtant, la demande de formation est forte, pour les métiers de niveau CAP, d'agent de restauration collective, par exemple, ou d'auxiliaire de vie en zone rurale, et dans l'industrie, on recherche des soudeurs, des usineurs, sans compter le rôle social que joue ici la FPA par ses réussites en matière d'intégration des réfugiés. Veillez au maillage des villes, dit M. Foulquier. C'est un choix de société. M. Perrault abonde. On essaie de poser tout dans les mêmes mailles, alors que, Comme en jardinage, il faut aménager un espace pour que chaque plante pousse différemment. Il dénonce une stratégie jacobine, quelque peu défaillante, un temps administratif peu en phase avec le temps économique, et les lenteurs d'un autre désenclavement en souffrance, le numérique. Un boulet pour les entreprises qui réalisent leur chiffre d'affaires grâce aux ventes par correspondance. La France, remarque-t-il, est à la traîne en matière de visioconférence, et la fibre optique, ici, se fait désirer. Elle est arrivée à son domicile avant d'arriver dans son entreprise. Absurde. Citoyen entrepreneur, aujourd'hui à la tête d'un groupe qui emploie 120 salariés, il a cependant la foi, je vois autour de moi des gens qui ont envie d'avancer. Ah, ils ne sont pas rares, en effet, porteurs d'initiatives individuelles qu'un nouveau souffle pourrait orchestrer. À Domera, dans la zone industrielle de la Loue, M. Sébastien Reynaud, directeur du site de production chez Recycléa, spécialisé dans le réemploi de matériel informatique, se convainc que l'agglomération a du potentiel. « Nous ne sommes pas condamnés au motif que nous n'aurions pas le train », veut-il croire. Son grand-père a connu les licenciements chez Dunlop, sa mère chez Landis et Gire, son père à France Télécom. La relève pour lui passe par une action qui a du sens sur son territoire. Il a choisi d'œuvrer pour l'intégration des handicapés. Recycléa, en forte croissance, emploie 54 salariés, dont 47 en situation de handicap. Sur 100 euros gagnés, 82 sont réinvestis localement. Si elle n'a pas fait le deuil du passé, la ville comprend qu'elle a besoin de changer, assure M. Rodinec, qui a lui-même jeté aux orties ses habitudes citadines. Délaissant la cocotte minute parisienne, ce patron d'une très petite entreprise a relocalisé à Montluçon sa production de tests antidrogues, un temps fabriqués en Chine. Tenter de faire pas cher, parfois, cela coûte très cher. Les prix au mètre carré et l'accueil réservé par les collectivités ont fini par le convaincre, même s'il aura fallu un temps bricoler avec la 4G pour boucler les sauvegardes du serveur de l'entreprise. Souvent, l'impulsion vient de l'extérieur, comme avec l'arrivée à la dernière entrée d'un nouveau proviseur. Au lycée polyvalent Paul Constant, 1700 élèves, M. Bruno Boucher veut fixer un nouveau cap. Il parle d'excellence à développer, en maintenance numérique, en chimie, dans le tertiaire. L'âge d'or serait derrière nous, il est devant. Il faut un peu de rupture et des projets ambitieux. Parfois, le déclic vient de l'intérieur. Cet hiver, M. Philippe Alain, agent immobilier, s'est mis en tête de réveiller le commerce local de centre-ville, malmené par les grandes surfaces et le commerce électronique, et menacé par la vacance commerciale. Sur un mur du boulevard de Courtais, l'artère bourgeoise, une peinture publicitaire donne avec ironie la mesure de ce sommeil. Bar le moderne, depuis plus d'un siècle. 160 commerçants, repérables à de grands cœurs rouges dessinés sur leurs vitrines, adhèrent aujourd'hui à la campagne Montluçon, cœur de ville. Le soir, lors d'ateliers de formation, ils redécouvrent par petits groupes que l'union fait la force. Parfois, enfin, l'étincelle est simplement individuelle et personnelle. Rue Porte des Forges, Madame Virginie Ancel a ouvert il y a 3 mois une librairie de l'image, la Gozette, sereinement différente, ancrée dans le territoire, sans se sentir en rien attaquée par la FNAC qui vient de s'installer à l'espace Saint-Jacques. Moins de poussière sur les meubles. Pas de pollution, moins de poussière sur les meubles, un environnement où les problèmes se règlent à échelle humaine. Nos territoires ont plus d'avenir que les métropoles à l'horizon de 200 ou 300 ans, prédit M. Jean Brosset, directeur d'Habitat Jeune, ex-foyer des jeunes travailleurs, convaincu que l'intelligence peut irriguer les petites villes. Lui-même vient de mettre un parc de scooters à disposition des apprentis auxquels l'organisme offre un logement. Les collectivités n'attendront pas si longtemps. Dans l'agglomération, les habitants sont invités à dessiner leur avenir en planchant sur le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal lors d'ateliers citoyens. La ville, elle, a déjà confié la reconfiguration de son espace à Joan Busquets, urbaniste catalan. Le Cher, jadis barrière sociale entre les rives gauche et droite, est appelé à devenir un trait d'union. grâce au plan national Action Cœur de Ville, dont la cité bénéficiera, ses berges austères pourront être aménagées et le plan des mobilités repensé. Le destin des villes moyennes passe aussi par la coopération. À Virzon, qui organisait en mars un colloque sur la revitalisation des centres-villes, on retrouve M. Laporte qui discute avec des collègues. De partout en France, des élus, des responsables administratifs sont venus partager leurs difficultés, leur rage aussi. Le maire de Nevers approche. Il caresse l'idée de créer un pôle métropolitain, un syndicat mixte d'intercommunalité. Vous seriez partant pour y réfléchir ? Bien sûr ! Il n'est pas simple de faire les 100 km qui séparent Nevers de Montluçon. Qu'importe. Toutes les forces sont bienvenues pour survivre ou renaître. Qu'elles se trouvent à 1h40 par les départementales ou à 2h40 train, changement compris. Dans les couloirs, on parle des années d'abandon par l'État et de la nécessité d'agir ensemble. Il n'échappe à personne que l'impératif d'égalité républicaine entre les territoires est remis en question, y compris au plan sémantique. Avec la formation du premier gouvernement de M. Philippe en mai 2017, la notion d'égalité a cédé la place à celle de cohésion des territoires, par la création d'un ministère du même nom. Une notion assez floue, moins contraignante, en vigueur dans les institutions européennes.
Au terme de ce billet,
nous remercions Alex Vito
pour avoir prêté sa voix. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion.
Thank you.